Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regarde sur le Mexique à l'occasion des élections générales qui se tiennent aujourd'hui. La relation avec les États-Unis, plus important partenaire commercial, plus gros investisseur et où réside plus de 33 millions de descendants de Mexicains est et demeurera la priorité pour le Mexique en termes de politique étrangère. Ceci n'empêche pas de nombreux points de tension entre les deux capitales sur fond de questions migratoires et d'incertitudes quant à l'avenir de l'ALENA, le grand marché nord-américain qui rassemble États-Unis, Canada et Mexique. Nos invités, Alain Rouquier, politologue, ancien ambassadeur de France au Mexique, directeur de recherche émérite au CERI Sciences Po, auteur de Le Mexique, un État nord-américain, paru chez Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean Rivelois, sociologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, enseignant à Paris 1 et Paris 3, auteur de Drogue et Pouvoir du Mexique au Paradis, paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Au milieu des profonds problèmes que connaît le Mexique, que nous avons évoqués dans l'émission d'hier, les questions de relations internationales semblent lointaines et abstraites pour beaucoup d'électeurs mexicains. C'est un peu un élément nouveau dans l'élection 2018 par rapport aux précédentes. Cette relation avec les États-Unis, un défi pour le prochain président, Alain Rouquier.
La relation avec les États-Unis est toujours un défi pour tous les gouvernements mexicains, puisqu'on ne change pas de voisin, et surtout quand on a un voisin aussi puissant, et qui est le marché essentiel pour l'économie mexicaine. Ce n'est pas le seul défi, mais les autres défis sont liés. Ça, le défi de la sécurité, lié au narcotrafic, s'il n'y avait pas un marché au nord qui est un marché énorme, si les armes ne venaient pas du nord, il est certain que la violence qu'on a connue dans les dernières années ne pourrait pas s'exercer de la même façon. Le problème de la relation du gouvernement mexicain, présent ou futur, avec le président Trump n'est pas simplement le problème du mur, le problème des insultes, le problème des tweets ou le problème même de la migration, car il y a une migration qui est faible, il y a des retours, mais la migration aujourd'hui est surtout une migration centra-américaine plus qu'une migration mexicaine. Le problème, c'est le modèle économique mis en place à partir de 1988. La remise en question de l'ALENA poserait un problème énorme au gouvernement mexicain, quel qu'il soit, car il serait obligé de changer de modèle. Je me souviens de discussions que j'avais eues avec Salinas Gortari, qui est l'homme qui a porté sur les fonds Batismo Lena. Il m'a dit, vous comprenez, ce qu'il nous faut, c'est avoir la garantie que nous pourrons toujours exporter vers les États-Unis. Eh bien, ce toujours, c'est peut-être fini si M. Trump décide de mettre à exécution ces menaces, d'en finir avec l'accord trilatéral pour d'autres accords qui seraient bilatéraux ou autres, mais qui ne seraient plus le modèle que le Mexique a connu depuis 1994.
Il a un peu mis de l'eau dans son vin, Alain Rouquier, le président Trump, sur l'accord de l'ALENA. Il n'est plus question aujourd'hui, à moins qu'il ne change d'opinion, d'abroger.
Vous savez, ce qui fait la force de M. Trump, il l'a dit plusieurs fois, c'est l'imprévisibilité. Donc on peut dire qu'il a mis de l'eau dans son vin et puis ensuite un peu de whisky, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va aller, les pressions sont très fortes et on verra ce qui en sortira. Mais c'est évident que l'imprévisibilité signifie qu'on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que si l'on regarde les différents candidats, on voit que le candidat le plus prêt au dialogue, un peu comme notre président, c'est López Obrador. Parce que, comme notre président, il pense qu'il peut séduire n'importe qui, comme il a séduit les jeunes Mexicains, comme il a séduit les intellectuels qui, hier, étaient contre lui. Il dit, je vais peut-être séduire Trump.
Alors,
pas très sûr.
Alors, incertitude côté nord-américain, décision éventuelle du président Trump vis-à-vis de l'accord de libre-échange, l'ALENA. López Obrador, on le dit, assez protectionniste. Qu'est-ce que l'on sait de ses intentions vis-à-vis de l'ALENA, Alain Rouquier, si jamais il est élu ce soir
Il n'est pas question pour lui d'y toucher. Ce qu'il est clair pour lui, il a dit, c'est que les exportations, c'est moins important que le marché intérieur. Et cela, il est traditionnel, redistributionniste, et tous les éléments de son programme, c'est ça. Plus augmentation des pensions, augmentation des bourses, etc., 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 ce qui va dans le bon sens, à condition de pouvoir le financer. Mais le commerce extérieur, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Donc, il se contenterait du statu quo. Évidemment, il sait combien il est important que le Mexique puisse exporter aux États-Unis, mais au-delà, il n'a pas fait de proposition qui modifierait dans un sens ou dans un autre le rapport de l'économie mexicaine avec les États-Unis.
Alors, on a vu durant cette campagne, Jean-Yves Le Drian, les candidats à la présidentielle être plutôt d'accord sur leur vision de Donald Trump. C'est la question que je vous pose. Est-ce que finalement, c'est le seul élément fédérateur entre les différents programmes des candidats à la présidentielle que la relation avec le président américain ?
D'une certaine manière, oui, parce que si Monsieur Trump est imprévisible, une autre de ses caractéristiques, c'est de ne pas beaucoup réfléchir. C'est-à-dire qu'il est très rapide dans ses prises de décision, et quelquefois un peu trop rapide. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se soit pas manifesté jusqu'à présent, alors qu'il avait dit qu'il le ferait, pour dénoncer l'ALENA. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ça me semble assez évident, c'est que son entourage a dû lui dire « Il ne faut pas court-circuiter l'élection mexicaine, parce que si on dénonce maintenant, les Mexicains vont voter pour la gauche et vont voter pour López Obrador. » Or, il n'a pas dénoncé, mais les Mexicains vont quand même voter López Obrador. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va se passer après, non seulement au Mexique, mais aux États-Unis, comment Trump va-t-il réagir à cette gifle que va constituer l'élection de López Obrador à sa frontière sud? Les États-Unis, jusqu'à présent, en usant de toutes les méthodes, par l'intermédiaire de la CIA ou autre, ont tout fait pour qu'il n'y ait pas un gouvernement de gauche qui s'installe à la frontière sud. Ça va être le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, maintenant, du côté mexicain, López Obrador, lui-même, n'a aucun intérêt à ce que le Mexique sorte de l'ALENA. 80% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis. Ça veut dire que si l'ALENA est dénoncée, il va y avoir une hémorragie de main-d'œuvre au Mexique. Si l'ALENA est dénoncée, et que Trump construit d'une manière ou d'une autre, ou fait construire, peu importe, son mur, et qu'il rapatrie tous les Mexicains clandestins qui sont au Mexique, ils vont revenir au Mexique. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Mexique? Eh bien, ils vont verser, soit dans l'économie informelle, soit dans l'économie souterraine, puisque l'économie formelle ne pourra pas les absorber. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comment on va réagir? Alors, ça, c'est tout le travail du politique d'anticiper l'imprévisible, d'une certaine manière, et qui est encore plus imprévisible quand on a un voisin comme M. Trump.
Alors, vous le disiez, Alain Rouquier, dans l'émission d'hier, à propos de López Obrador, pour souligner qu'il serait le premier président né au sud de Mexico depuis un demi-siècle. Il veut rééquilibrer les choses. L'ALENA, vous évoquiez la tromperie qui a été sur les conséquences et les bienfaits de l'ALENA pour le Mexique. Le résultat, c'est qu'on voit un pays extraordinairement disparate sur le plan économique entre le Nord et le Sud. López Obrador a la capacité, c'est dans ses intentions, de véritablement procéder à ce rééquilibrage qui aujourd'hui vous paraît vraiment le point central dans la question du Mexique par rapport à l'ALENA.
C'est dans ses projets, il en a parlé à plusieurs reprises, c'est évident. Et je vais continuer une comparaison qui m'est faite entre Lula et López Obrador. Lula venait du Nord-Est, la zone la plus pauvre
du Brésil.
Et lui vient du Sud, du Tabasco, qui est une zone extrêmement pauvre. Donc il est évident qu'il aura à cœur de développer le Sud et d'en finir avec cette centra-américanisation du Sud. Et d'ailleurs, étant du Sud, il peut utiliser contre les décisions de M. Trump un argument extrêmement important. C'est le Mexique qui fait la police de la frontière américaine au Sud, c'est-à-dire avec le Guatemala. Et si jamais M. Trump arrivait à l'extrémité de dénoncer l'ALENA, il pourrait dire « non, non, on n'a plus de problème de ce côté-là ». Et s'il dénonçait l'ALENA, comme disait Jean-Rivola tout à l'heure, il y aurait un moment de transition entre le modèle ALENA et puis un autre modèle. Et ça signifierait quoi? Un chômage énorme et des flux migratoires mexicain, à nouveau, très fort, comme dans toutes les crises. À chaque fois qu'il y a une crise au Mexique, il y a un flux migratoire que rien n'arrête. Rien n'arrête, quel que soit le nombre de gardes de l'ICE qu'on met aux frontières, rien ne l'arrête. Donc, si M. Trump réfléchit avant de décider, finalement, il réfléchit après, mais bon, si pour une fois, il réfléchit avant de décider, et si ses conseillers lui montrent le risque, il y a un risque pour les États-Unis qui est très important. Et un risque, évidemment, pour le Mexique, qui est de changer de modèle économique. Alors peut-être, changer de modèle économique permettrait de changer aussi de modèle politique. Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser, car parmi les défis que doit affronter le nouveau président, il y a la relation aux États-Unis, l'ALENA, il y a aussi la sécurité, et donc la violence, et puis, je dirais, le démontage du système prix, qui est un système qui n'est pas démocratique, malgré des élections ouvertes et des alternances.
Alors, prix pour le Parti révolutionnaire institutionnel.
Institutionnel, oui.
La question de la sécurité, alors je repars sur le nord, Jean-Yves Leloir, c'est 3145 km de frontière avec les États-Unis. C'était intéressant d'écouter à l'instant ce que disait Alain Rouquier. Finalement, les Mexicains ont des moyens de pression sur les États-Unis et une puissance de levier.
Les Mexicains ont deux moyens de pression, principalement, sur les États-Unis. C'est, un, comme vient de le préciser M. Rouquier, les migrants, et deux, les trafiquants de drogue. Donc, si le gouvernement mexicain décide d'ouvrir les routes et de ne plus les réprimer, là, ça va être dangereux pour les États-Unis. Rappelons que, concernant les migrants, le Mexique aujourd'hui, expulse davantage de migrants centra-américains que les États-Unis. N'est-ce pas? Depuis 2007, un accord a été signé entre le gouvernement mexicain et le gouvernement américain pour sous-traiter l'endiguement des migrants au Mexique, de la même manière que l'Europe sous-traitait avant au Maroc, à la Tunisie et à la Libye, si vous voulez. Là, c'était au Mexique que revenait cette tâche. Eh bien, le Mexique a rempli sa mission, n'est-ce pas? Alors, maintenant, c'est vrai qu'il ne peut pas la remplir complètement parce que les migrants, d'une manière ou d'une autre, du fait que c'est une migration économique, n'est-ce pas, les migrants arriveront toujours à passer. Les trafiquants de drogue, c'est pareil, ils arriveront toujours à passer. Vous pouvez construire un mur, ils vont construire des tunnels. Vous pouvez boucher les tunnels, ils vont utiliser des avionnettes. Vous abattez les avionnettes, ils utiliseront des sous-marins. Ils passeront tout le temps.
Leurs moyens sont énormes.
N'est-ce pas ? Donc, après, maintenant, le programme de López Obrador, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant chez lui. Concernant ces routes de la drogue qui vont vers les États-Unis, eh bien, lui, il dit, López Obrador, ce qu'il faut faire, on n'arrivera jamais, on n'y est arrivé dans aucun pays, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de trafiquants. Et il y a toujours des trafiquants. La caractéristique du Mexique, bon, ce n'est pas le seul État dans ce cas-là, mais c'est un État clé qui est concerné, c'est que on n'arrive pas à faire la distinction entre les bons et les méchants.
Si vous voulez. Entre les bons,
entre les autorités officielles qui ont en charge la répression du trafic de drogue et les trafiquants de drogue eux-mêmes. Si vous voulez. Ils sont complémentaires. Ils sont unis par un pacte. N'est-ce pas? Le système politique, comme nous le disions hier, fonctionne à partir de ce pacte. Donc, ce qu'il dit, lui, il dit, on ne va pas mettre tous les Mexicains corrompus ou corrupteurs en prison, il n'y aurait pas assez de prison, et les trois quarts de la population mexicaine seraient en prison. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Par contre, on va s'attaquer aux élites corrompues. Les élites corrompues, les plus corrompues à l'heure actuelle, ce sont les gouverneurs et les maires des grandes villes. Alors là, il va falloir un certain courage de la part de López Obrador pour aller jusqu'au bout de son programme, parce que là, ça va encore déclencher une guerre. Si vous voulez. du fait que nous sommes dans un système fédéral et que chaque niveau de l'État, si vous voulez, a sa propre police. Donc l'État fédéral ne contrôle pas toutes les polices. Donc il va falloir agir également au niveau institutionnel. Le niveau institutionnel, c'est la police, c'est l'armée, ce sont toutes ces institutions de gouvernement, c'est les douanes, par exemple, pour ce qui concerne... C'est important, les douanes, parce que les narcotrafiquants vont chercher et cherchent et sont parvenus à contrôler certains ports clés du Mexique. Pourquoi il y a une guerre qui est si féroce à l'heure actuelle dans le Veracruz ? Parce qu'il y a le port de Veracruz. Qui contrôle le port de Veracruz contrôle les flux de drogue qui vont vers l'Europe, en passant par les Caraïbes, oui, et vers les États-Unis. Voilà. Imaginez-vous qu'en 2011-2012, les cavaliers templiers contrôlaient le port de Lázaro Cárdenas pendant 2 ans. C'est un des ports les plus importants du Mexique. Là où arrivent tous les containers de Chine, etc., il a été tenu pendant 2 ans par un groupe de narcotrafiquants. C'est une chose qui est insensée, n'est-ce pas? Alors, le travail de López Obrador va être de faire en sorte qu'on mette les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Les méchants, ils continuent à faire leurs affaires et les bons sont chargés de les réprimer. Alors évidemment, il va y avoir des interférences, mais au moins... c'est une politique nouvelle. La deuxième caractéristique du programme de López Obrador, et c'est en cela aussi que c'est intéressant, c'est que il veut faire une politique de redistribution des richesses nationales, c'est-à-dire une politique de développement, et notamment dans les zones pauvres du Mexique, dans les zones rurales qui sont dans les régions perdantes, les régions oubliées. Il faut développer ces régions-là, parce que sinon ces régions-là vont être soumises à ce que moi j'appelle un développement de substitution. Si l'État n'est pas là, s'il n'y a pas de politique sociale dans ces régions-là, ce sont les narcotrafiquants qui investissent ces régions et ces territoires. Et plus ils vont les investir, moins l'État va les contrôler, et à la fin, on risque d'avoir ce qu'on appelle un État failli ou un État mafieux, ce qui n'est pas le cas du Mexique à l'heure actuelle, je tiens à le préciser.
À quelle distance, d'après vous, justement, le Mexique se trouve-t-il, Alain Rouquier, de cette situation qu'évoque à l'instant Jean-Yves Leloy, d'État failli ?
Non, on n'est pas encore là, on l'a été à plusieurs reprises, on l'a été en 2007, on l'a été en 2008, en 2009, même les généraux américains l'avaient placé dans les États faillis, hein, ça ne faisait aucun doute, et bien le Mexique s'est un peu redressé. Donc il faut ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Yves Leloy, il faut ajouter un point pour montrer la difficulté que va avoir le nouveau président face à la situation dont il hérite. C'est que on n'a pratiquement pas parlé du problème de la violence et du narcotrafic avant 2000, avant la démocratie, avant l'alternance. Et c'est pas la faute du Parti d'Action Nationale. C'est qu'à partir du moment où il y a une véritable démocratie, le fédéralisme n'est plus une fiction. Le fédéralisme est une réalité. Or, qu'est-ce qui se passait avant ? Moi, je l'ai vu directement quand j'étais au Mexique avec la présidence de Salinas. Eh bien, il n'y avait pas une feuille qui bougeait dans le pays sans que la présidence, Los Pinos, intervienne. Un gouverneur laissait aller les choses, était un peu corrompu, hop, intervention fédérale, c'était fini. Avec la démocratie, les gouverneurs ont un pouvoir énorme et l'État central a d'autant moins de pouvoir. Il n'a presque plus de pouvoir. Et attendez...
Non, mais je vous propose, Alain Rouquier, parce que votre cheminement... part dans la deuxième partie de l'émission sur ces questions et vous aurez plus de temps pour développer. Géopolitique, nous retrouvons nos invités dans quelques instants après le journal.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur le Mexique à l'occasion des élections générales qui se tiennent aujourd'hui. Nous retrouvons nos invités. Alain Rouquier, politologue, ancien ambassadeur de France au Mexique, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et auteur de Le Mexique, un État nord-américain. Et Jean Rivelois, sociologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, enseignant à Paris 1 et Paris 3 et auteur de Drogue et pouvoir du Mexique au paradis, paru chez l'Harmattan. Alain Rouquier, je vous ai interrompu parce que le temps s'imposait à nous dans la première partie de l'émission. Vous évoquiez les défis d'Andrés Manuel López Obrador, favori de l'élection d'aujourd'hui. Les défis sur les questions de sécurité, la violence et la drogue. Et vous reveniez sur l'arrivée de la démocratie en 2000 au Mexique et l'explosion de la violence. Vous en faisiez une corrélation.
Mais oui, malheureusement, c'est la rançon de la démocratie, le fédéralisme qui était fictif jusque-là, le système prix était un système totalement centralisé où le président nommait à tous les emplois et nommait les députés, les sénateurs, les gouverneurs, etc. À partir du moment où il y a véritable fédéralisme, les gouverneurs ont un pouvoir énorme, les municipalités ont un pouvoir énorme. Il y a un millier de polices mal formées, mal recrutées dans tout le pays qui sont facilement pénétrables par les narcotrafics et les gouverneurs d'eux-mêmes. Alors, face à cela, que faire? Certains ont pensé que quand M. López Obrador dit amnistie, ça a fait frémir, l'amnistie. Mmh. Amnistie, finalement, c'est revenir au système ancien. Le narcotrafic a toujours existé, mais il était contrôlé du centre. Et à partir du centre, on disait à celui qui faisait ce genre de trafic, qui était, comme disait tout à l'heure Jean-Rivelois, un chef d'entreprise, on lui disait doucement, pas de vague, pas de violence, ou alors violence entre vous, mais ça ne sort pas d'un certain cadre que nous contrôlons. Sinon, ça sera nous qui interviendrons. Est-ce que c'est possible pour López Obrador? Il faudrait pour cela qu'il y ait une police, une véritable police nationale. Il y a eu une tentative, après l'élection de M. Peña Nieto, de créer une gendarmerie, avec de l'aide française, d'ailleurs de l'aide européenne. C'est toujours dans les limbes. Il y a eu 4 ou 5 000 policiers et pas les 20 000, 30 000 ou 40 000 qui auraient été nécessaires. Est-ce que López Obrador, qui sera un président de redistribution, va investir dans les polices et essayer d'utiliser la vieille méthode de tout contrôler pour que la violence s'arrête? Je ne sais pas, mais c'est une des possibilités d'un homme qui a une vieille expérience du système prix et qui peut avoir adopté ce qu'il avait de meilleur ou de moins mauvais, finalement.
Jean Rivelois, les priorités en la matière pour López Obrador?
Le Mexique patine. En 2012, les Mexicains ont voté ou ont revoté prix pour faire diminuer la violence au Mexique qui devenait déjà insupportable. Monsieur Peña Nieto a été élu. Il a eu une politique qui est complètement illisible, qui s'est avérée complètement illisible, parce que d'une part, il a continué à réprimer et à militariser la lutte contre le trafic de drogue, comme ses prédécesseurs, et en même temps, il a renouvelé un pacte politique avec certains cartels de la drogue. Donc, un échec complet. Aujourd'hui encore, le peuple mexicain redemande à son nouveau président de diminuer la violence qui est sa principale préoccupation. Le Mexique, il faut le savoir, la population mexicaine vit dans la terreur, la peur de sortir, la peur d'être attaqué, la peur d'envoyer les enfants à l'école. C'est un souci quotidien. Pourquoi? Parce que la violence n'est plus régulée. Jusqu'en 1989, le parti PRI contrôler la régulation de la violence. Les narcotrafiquants existaient, mais on les laissait faire leurs affaires. Ils versaient un impôt informel à l'État qui était l'acteur dominant à cette époque-là. Mais le revers de la médaille, ils bénéficiaient de la protection de la police fédérale, en échange de quoi leurs activités ne devaient pas déborder sur la société civile. La violence ne devait pas faire tache d'huile. Ce système a été rompu en 1995. De 1995 à 2007, a laissé les coups des franches aux narcotrafiquants. L'État fédéral s'est désengagé du pacte. Les narcotrafiquants se sont autonomisés avec l'effet suivant, c'est que au niveau régional et local, ils sont devenus non seulement des acteurs dominants, mais également des acteurs politiques qui aujourd'hui choisissent leurs candidats et éliminent les candidats qui leur déplaisent. Donc là, on a un problème qui est très sérieux. Ce problème de la violence, il est enraciné. Ce problème de la violence liée au narcotrafic et des compromissions, des connivences policières qui lui sont liées, il date de 1978, 88, 98, 2008, 2018, 40 ans de connivence entre les autorités institutionnelles, politiques et criminelles, que ce soit au niveau fédéral dans un premier temps ou maintenant au niveau régional et municipal. 40 ans, c'est une culture politique qui s'est instaurée. Vous ne pouvez pas changer une culture politique du jour au lendemain.
Alors, c'est la question que j'allais poser, parce qu'effectivement, López Obrador, s'il est élu, sera en place pour 6 ans, avec impossibilité d'avoir un mandat reconduit. Alain Rouquier, qu'est-ce qui peut lui permettre de réussir là où son prédécesseur a échoué, ses prédécesseurs depuis les années 2000, instauration de la démocratie? Comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous êtes optimiste pour le Mexique?
Écoutez, quand Peña Nieto est arrivé au pouvoir en 2012, il a pensé qu'il était très malin et qu'il pouvait mettre l'affaire, les problèmes du narcotrafic sous le tapis. Et qu'on n'en parlerait plus parce qu'il y aurait 6% de croissance et puis il allait faire des réformes. Il n'y a pas eu 6% de croissance, mais 2%, pour nous ça serait très bien, mais 2% pour le Mexique c'est insuffisant. Et il a fait des réformes. Les réformes importantes, c'est dans le domaine de l'éducation, où ce n'est plus le syndicat corrompu qui est propriétaire des postes, et dans le domaine pétrolier, où désormais le monopole a été ouvert, et le syndicat pétrolier aussi corrompu ne gouverne plus Pemex. C'était d'ailleurs des propositions du PAN, à l'époque de Calderón, que le prix avait empêché de passer. Et M. López Obrador, dans ses discours publics, a flatté le syndicat des enseignants, a dit qu'il reviendrait sur la réforme de Peña Nieto, et de même dans le domaine pétrolier. Ensuite, il a mis un peu de l'eau dans son pétrole, et là, maintenant, ça a l'air d'être plutôt dans la continuité. Mais le problème essentiel, c'est pas le problème des narcotrafics, c'est le problème de la police. Il n'y a pas de police. Il faut des policiers bien formés, bien payés. Il faut qu'ils soient contrôlés par un ministère de la Justice, le procureur général, et par un secrétaire de la gouvernation, le ministère de l'Intérieur, et qu'il n'y ait pas du laisser-aller, comme on l'a vu depuis des années et des années. Chaque fois qu'on a essayé de créer une police spécialisée dans les stupes ou une police spécialisée de type FBI, le directeur général a fini en prison. Ce qui signifie qu'il y a quand même une justice qui fonctionne. Et là aussi, une réforme qui a été commencée sous Calderón et qui continue, et qui est une réforme positive qui va dans le bon sens, c'est la réforme de la justice. Mmh. La justice, qui ne reconnaissait pas l'innocence des prévenus, maintenant la reconnaît. La justice était écrite, maintenant elle est orale et contradictoire, comme aux États-Unis. Donc ça aussi, avec une justice indépendante et qui fonctionne, avec des droits de la défense qui fonctionnent, on peut aller de l'avant. Avec une police qui fonctionne et qui est honnête, on peut aller de l'avant. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous êtes arrêté sur la route par un barrage policier, et vous ne savez pas si c'est des vrais policiers, si c'est des policiers corrompus qui vous arrêtent pour un bacchiche, ou si c'est des faux qui vous arrêtent pour vous tuer ou pour vous enlever. Parce que les narcotrafics et les bandes de délinquants se sont diversifiés, hein, dans les enlèvements, les rançons, etc. C'est beaucoup trop dangereux.
Alors, absence de repères, je me tourne vers vous, Jean-Yves Velloy, Alain Rouquier évoquait la nécessité de réformer la police. Mais finalement, cette question, est-ce que le Mexique peut seul lutter contre le trafic de drogue et la violence qui est attachée dans cet environnement latino-américain qui est le sien, centre-américain?
Bien sûr que le Mexique ne peut pas lutter tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que le problème de la légalisation de la drogue est un faux problème, parce que si on veut légaliser...
C'est au programme de López Obrador.
Oui, mais López Obrador, nous ne sommes pas des partisans, si vous voulez, on peut aussi critiquer son programme, n'est-ce pas? Si on veut légaliser la drogue au Mexique, d'abord de quelle drogue on parle?
Eh oui.
Et ensuite, pour bien faire, il faudra légaliser la drogue en même temps, le même jour, à la même heure, dans tous les pays qui sont traversés par les routes de la drogue. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et je suis effectivement d'accord avec M. Rouquier, le problème n'est pas l'existence des narcotrafiquants. Des narcotrafiquants, on en a à Paris aussi. Ça nous empêche pas de vivre. Le problème, c'est la confiance que l'on a dans les institutions d'État qui servent de relais au pouvoir politique et qui, à l'heure actuelle au Mexique, ces deux instances, le pouvoir politique qui détient la légitimité du peuple et les institutions d'État qui sont chargées de réaliser la politique, sont corrompues. Ça veut dire, avant, il y avait quand même de la corruption. Mais c'était davantage de l'extorsion, c'est-à-dire que c'était l'appareil d'État qui extorquait les entrepreneurs et, par voie de conséquence, les trafiquants de drogue, parce que l'appareil d'État était le plus fort. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et c'est ça qui est le véritable problème, c'est ce déséquilibre au niveau local et régional entre des groupes qui sont des groupes criminels et les institutions d'État et les politiques. Avec, en plus, un problème qui se pose, si vous voulez, c'est que ce déséquilibre a provoqué une perte de confiance dans la légitimité des partis politiques. Tous les partis politiques de gouvernement ont été discrédités à cause de ça. Comment en sortir ? Le peuple mexicain va choisir un nouveau parti qui n'a jamais gouverné, mais dont le chef, comme le disait M. Rouquier tout à l'heure, a effectivement une expérience politique, puisqu'il a été à la fois membre du parti, membre du PRD, maire de Mexico. Il a créé un nouveau parti et en plus, il bénéficie d'une adhésion populaire. Donc, on va bien voir ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire, mais il n'empêche que la tâche va être longue et difficile.
Alain Rouquier.
Oui, c'est une tâche longue et difficile. On ne sort pas aussi facilement de 70 ans d'un autoritarisme tel que celui qu'a connu le... On peut sortir très facilement d'un autoritarisme personnel. On sort assez facilement, et avec beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes, de l'autoritarisme militaire. Mais un autoritarisme comme celui-là, déguisé, culturel, tentaculaire, pendant 70 ans, qui avait tous les aspects de la démocratie, puisque tous les 6 ans, on changeait de président, et puis tantôt il apparaissait comme étant de gauche, tantôt il apparaissait comme étant de droite, et puis il y avait des partis, il y avait une certaine liberté de la presse dans certaines limites, etc. Ça, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on ne sait pas où commence la démocratie et où elle finit. La démocratie, c'est pas simplement les élections. Est-ce que le Mexique est un état de droit? Bon, je pose toujours cette question. Et quand je réponds non, je vois mes amis dire, mais pas du tout, c'est un état de droit, j'ai jamais eu de problème. Ben oui, mais non, c'est pas un état de droit. C'est en train de devenir un état de droit, c'est en train de conquérir l'état de droit. Et là, López Obrador peut beaucoup, parce qu'il a une adhésion populaire, pour que l'état de droit se consolide. Il y a eu certaines réformes, comme celle de la justice, Calderón, Peña Nieto, il faut aller plus loin, il faut que l'état soit respecté. Il ne faut pas l'inversion du pouvoir d'État. Ce qu'on a vu à maintes reprises, c'est que les policiers étaient au service des narcotrafiquants, des policiers d'État, des policiers municipaux. Ils étaient payés, ils venaient en uniforme, vous arrêtez pour vous dire, ben voilà. Et ce qui s'est passé d'ailleurs à Iguala, c'était exactement ça.
L'affaire des 43 étudiants.
Des 43 étudiants qui ont disparu, ils ont été arrêtés par des policiers qui étaient au service d'un cartel et qui les a fait disparaître pour des raisons sur lesquelles il y a des hypothèses, mais dont on ignore encore tout. Et ça, c'est le problème. Les policiers qui contrôlent les délinquants, mais ce sont les délinquants qui contrôlent les policiers, ça, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible dans une république. La république, disait Montesquieu, c'est la vertu. Et là, la vertu, elle n'y est pas.
En tout cas, les niveaux de violence que le Mexique connaît, Jean Révolo, c'est des niveaux d'un pays en guerre. Hein. C'est plus de 200 000 morts en 2017. Je ne sais pas ce que sera 2018.
C'est le deuxième conflit mondial le plus meurtrier après la Syrie. Pourtant, on n'en parle jamais, si vous voulez, mais c'est une réalité. Alors, je suis d'accord avec ce que disait M. Rouquier. Moi, j'ai coutume de dire, le Mexique n'est pas un état de droit, c'est un état de loi. La loi existe.
Elle n'est pas appliquée.
Comme un référent qu'il est possible de transgresser à condition de payer pour bénéficier d'un passe-droit.
Et en même temps, c'est un idéal. On dit, la loi, un jour, aura force de loi. Mais pour le moment, malheureusement.
Pour le moment, elle a force de transgression d'elle-même, si vous voulez. Soit vous avez les moyens de payer pour transgresser la loi et vous faites partie d'une élite. Soit vous n'avez pas les moyens et vous subissez, vous êtes le sujet d'une clientèle. C'est aussi comme ça que fonctionne le clientélisme, n'est-ce pas ? Alors, ça pose un problème dérivé. Le problème dérivé, c'est que existe-t-il une société civile au Mexique ? Qui dit société civile, dit groupe organisé, indépendant. Est-ce que ça existe au Mexique ? Le prix était fondé, justement, sur un assujettissement de tous les groupes organisés.
Donc impossibilité de laisser une société civile émerger.
Vous n'avez pas de contre-pouvoir. Les contre-pouvoirs au niveau contemporain ont commencé à exister à partir de 94, c'est-à-dire de la révolte zapatiste. Auparavant, les contre-pouvoirs, ils étaient simplement éliminés. À partir du moment où vous êtes hors du système, vous êtes ennemi du système. Donc on vous élimine, et c'est ce qui s'est passé en 68 à la place des trois cultures, c'est ce qui s'est passé dans les années 70 avec les guérillas communistes dans certaines parties du Mexique. Alors maintenant, depuis les années 2000, et du fait qu'il y a une violence qui n'est plus régulée par l'État fédéral, n'est-ce pas, on assiste à une résurgence, ou du moins un surgissement de certaines catégories de la société civile, dont le point d'aboutissement, si vous voulez, ce sera peut-être l'élection de López Obrador. López Obrador va capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que toutes les attentes, tous les groupes sociaux qui n'ont pas pu se constituer en véritable contre-pouvoir vont converger vers l'élection de López Obrador. Alors, qu'est-ce que va faire López Obrador de cette conjonction ? On n'est pas des messies, mais ça va être intéressant sociologiquement, parce que ça va constituer une rupture dans le mode de gouvernement.
Question finale qui se pose en guise de conclusion à la Rouquet, c'est la façon dont l'élection de López Obrador, si elle est confirmée, candidat de gauche, on l'a dit, la façon dont il sera reçu par les États-Unis et comment s'établira la relation.
Oui, les États-Unis, pour le moment, c'est M. Trump. Alors, si sa tête lui revient, il dira rien. Si sa tête lui revient pas, il dira un horrible violeur, voleur, assassin, etc. Enfin bon, on peut plus avoir une analyse rationnelle de quelqu'un qui dit « Moi, je dis n'importe quoi parce que ça me rapporte pour mon électorat. » Et d'ailleurs, ça marche très bien. Mais ce qu'on peut attendre de López Obrador, c'est qu'il poursuive l'érosion du système prix qui contrôlait tout et contrôle de moins en moins. Alors, s'il contrôle pas les gouverneurs, là, c'est très mauvais, parce que c'est les polices corrompues, infiltrées par les narcotrafiquants, des gouverneurs corrompus. Mais s'il ne contrôle pas la société civile, elle existe, la société civile, ça, c'est bon pour la démocratie. Et je crois que ça avance. Ça avance difficilement, parce qu'il y a cette culture prégnante de l'État tout-puissant, de la présidence impériale, elle existe toujours, et beaucoup en rêvent. Alors, est-ce que M. López Obrador rêve de revenir à la présidence impériale qui contrôlait tout dans un pays qui était calme ? On pouvait se promener partout. Quand j'étais au Mexique, je me promenais la nuit, sans garde, ni rien. C'est fini. Alors, est-ce que c'est la nostalgie qui l'emportera, ou est-ce que c'est une vision de l'avenir d'un pays démocratique comme nous l'attendons ?
Le résultat dans quelques heures, en tout cas, pour connaître le résultat final de cette élection présidentielle au Mexique. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Alain Rouquier, politologue, ancien ambassadeur de France au Mexique, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et auteur de Le Mexique, un État nord-américain, paru chez Fayard. Jean-Yves Loi, sociologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, enseignant à Paris 1 et Paris 3, et auteur de Drogue et pouvoir du Mexique au paradis, paru chez L'Harmattan. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte, Marion Lestel, à samedi.